Le passage que je vous propose de méditer ensemble à l'occasion de cet anniversaire de la cause, oula, c'est écrit petit ma Bible, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, presque à la fin du chapitre 7, on va prendre à partir du verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Quand Jésus eut achevé ces paroles, tous restèrent impressionnés par son enseignement. En effet, il leur donnait son enseignement avec autorité, à la grande différence de leurs spécialistes des Écritures. Alors ce passage que nous venons de lire se situe à la fin, tout à la fin, du serment sur la montagne, ce discours que Jésus a prononcé devant ses disciples sur une colline probablement. Et c'est donc un peu la conclusion de tout ce long discours qui commence au chapitre 5 et qui est illustré, la conclusion s'illustre par cette parabole des deux maisons, celle construite sur le sable et celle construite sur le roc. J'ai toujours été frappé, quand je lis notamment le sermon sur la montagne, par l'étroite correspondance que l'on trouve entre l'enseignement de Jésus, qui s'exprime là, et celui de l'apôtre Jacques, que l'on trouve dans sa lettre. Or, vous savez peut-être que la tradition de l'Église indique, suggère, que Jacques et Jésus étaient frères, fils de la même mère. Ils ont donc grandi ensemble, côte à côte. Ils ont reçu le même enseignement familial avec leurs parents ou dans le cadre de la synagogue. À l'âge de l'adolescence, à cette époque où on refait le monde, ils ont probablement discuté entre eux pour savoir quelle était la meilleure manière de servir Dieu. Et je suis toujours étonné de constater que des décennies après la mort de Jésus, eh bien, leurs enseignements, en quelque sorte, sont restés autant convergents. Parce que pour Jacques aussi, une foi qui ne se manifeste pas dans des actions concrètes, eh bien, c'est comme si elle était morte. Pour lui, voici en quoi consiste la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence du monde. Or, vous le savez, certains chrétiens, certaines églises, ne font pas le choix d'une option prioritaire pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves. Ces chrétiens-là préfèrent de beaucoup mettre l'accent sur des manifestations spectaculaires de la foi. Eh bien, chers amis, vous l'avez entendu dans ces propos très fermes de Jésus, ceux qui expriment leur foi uniquement dans le domaine spirituel, eh bien, ceux-là, Jésus les rejettera au dernier jour. Car, ne faisant pas du bien aux orphelins et aux veuves, eh bien, aux yeux de Jésus, c'est comme s'ils commettaient le mal. Lorsque, en 1920, Freddy Dürrlemann a créé la cause, il s'est immédiatement situé dans ce mouvement spirituel qu'on a appelé le christianisme social et qui fera l'objet des discussions que nous allons avoir ensuite. Le pasteur Wilfred Monod, que l'on considère comme l'initiateur de ce mouvement au sein du protestantisme français, avait vraiment une prédication tout à fait claire sur ce sujet. Je le cite. « Je ne peux pas aimer tantôt l'homme et tantôt Dieu, vivre une vie laïque durant la semaine et vivre une vie sacrée pendant le dimanche. Je n'ai qu'une âme, et cette âme n'a qu'un idéal, vivre. Si j'aime les hommes, j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, j'aime les hommes. Cessez donc d'opposer comme des contraires les deux pôles d'une même vérité. » Monod et Dürrleman étaient contemporains. Ils avaient compris que quand Jésus déclare que le premier commandement, c'est-à-dire celui de l'amour pour Dieu, est semblable au second, celui de l'amour pour le prochain, eh bien c'est que Jésus s'oppose à des œuvres ou une manifestation de la foi qui serait uniquement spirituelle. Il faut aller dans le concret, dans une éthique, dans un comportement qui produise du fruit. Le second commandement, dit Jésus, est pareil au premier. C'est là que la mission de l'Église n'est pas seulement religieuse, mais sociale. Pour ces deux hommes de foi, il n'y a donc pas de frontière entre un christianisme spirituel et un christianisme social. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et à la fin de sa vie, Monod disait « Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » Et vous voyez qu'on retrouve là cette parole un peu brutale de Jésus « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Eh bien, je crois que Freddy Dürrleman, et Patrick Cabanel nous le redira tout à l'heure, tenait aussi fermement dans chacune de ses deux mains la dimension spirituelle de l'Évangile et la dimension sociale de l'Évangile. Par exemple, à son époque, il critiquait les partis politiques ou les syndicats qui aspiraient à une transformation sociale, mais en faisant l'économie d'une conversion personnelle. Pour lui, seul l'Évangile de Jésus-Christ peut produire dans le cœur de l'être humain un changement d'attitude profond qui rend possible, du coup, la transformation de la société tout entière. Sans cette profonde conversion du cœur de l'homme, il est chimérique d'imaginer transformer les relations entre les humains. Et c'est pourquoi, pour Dürrleman, l'exigence de la mission passe avant toutes les considérations doctrinales ou les différences confessionnelles. Il disait volontiers, la cause aurait-elle tort de se faire tout à tous, c'est-à-dire luthérienne avec les luthériens, évangélique avec les évangéliques, réformée avec les réformés, méthodiste avec les méthodistes, pour en sauver au moins quelques-uns? Et là encore, Dürrleman rejoignait la conviction forte que Jésus a exprimée dans une prière à la veille de son arrestation, qu'il soit un, et vous connaissez la suite, afin que le monde croit. N'oublions jamais la fin de ces paroles de Jésus. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la France compte un très grand nombre de veuves et d'orphelins. La cause se mobilise immédiatement et se met au service de ces deux catégories de personnes en souffrance. La première urgence n'est pas, comme au temps biblique, de leur fournir des moyens de subsistance, encore que, mais il s'agit plutôt de les entourer sur le plan affectif et de leur donner surtout la possibilité d'un nouveau départ dans la vie. C'est ce que visait la création du service Eliezer pour permettre aux gens de se marier et le service d'adoption pour ces enfants orphelins. Souvenez-vous de ce que dit Jacques. La religion pure et authentique, c'est secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse. C'est étonnant que la cause réponde point par point, en quelque sorte, à ce mot d'ordre de l'apôtre Jacques. Donc ce christianisme social dans lequel s'inscrit l'action de la cause a redécouvert, on peut le dire, une forme d'équilibre entre l'attachement à Dieu et l'engagement au service du prochain. Mais ce n'est pas au XIXe siècle ou au début du XXe que les choses, bien sûr, ont été senties de cette manière-là, ça remonte bien plus tôt. Je vous cite un mystique de la région de Rhénanie qui vivait au Moyen-Âge, Jan van Rensbroeck. Il disait, si tu es en extase, et que là, ton frère a besoin d'une tisane, eh bien, quitte ton extase et va lui porter la tisane. le Dieu que tu quittes est bien moins sûr que le Dieu que tu trouves. Bâtir notre vie sur ce double commandement d'aimer Dieu et aimer notre prochain, eh bien, j'en suis persuadé, c'est la bâtir sur ce qui fait le cœur du message de Jésus, sur cette manière originale qu'il a eue par rapport à tous ses contemporains de comprendre le sens et l'intention de la parole de Dieu. Mais cette fidélité n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle est, je crois, sans cesse à rechercher, sans relâche, en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. La cause a traversé un siècle d'histoire. Elle a tenu bon malgré les tempêtes parce qu'elle avait été posée par ses créateurs sur le roc de la parole de Dieu, sur la solidité des exigences de la parole de Dieu, c'est-à-dire sur un véritable esprit de service. Freddy Durleman disait, non pas notre cause ou votre cause, mais la cause, dans un anonymat superbe, la cause qui ne s'appelle pas autrement parce que c'est sa cause, celle de Jésus-Christ à qui un jour nous nous sommes donnés. Alors, frères et sœurs, ce 100e anniversaire de la cause nous invite, je crois, chacun, à nous interroger sur notre vie de foi. Est-ce que nous nous contentons de prier « Seigneur, Seigneur » ou est-ce que nous sommes prêts à mettre notre foi en œuvre dans des actions concrètes ? Est-ce que nous nous contentons de pleurer sur le déclin de nos églises dans la société d'aujourd'hui ? Ou bien sommes-nous prêts, comme Ésaïe, à dire au Seigneur, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que nous sommes dans l'attitude de ceux qui disent « Après moi le déluge » ou bien avons-nous le souci de nous engager pour que les générations à venir aient elles aussi la chance d'entendre le message de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu ? Car seul cet amour est capable de nous transformer radicalement et de changer aussi le monde dans lequel nous vivons. Frères et sœurs, si nous marchons selon l'Esprit, eh bien vivons aussi selon l'Esprit du Christ. Amen.